Avec l'ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Bonsoir.
Bonjour les garçons.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Est-ce que, on l'a un peu entendu, est-ce que pour certains, c'est une journée qui va être difficile à avaler, alors, cette, pardon pour l'expression un peu triviale?
Bon, disons que, au sein du Rassemblement National, mais ce qui est peut-être plus visible aujourd'hui chez les Républicains, chez une partie des Républicains, oui, c'est, on a l'impression que c'est une potion qui leur fait pas plaisir à avaler, ça c'est bien clair. D'ailleurs, leurs explications de vote étaient, disons, pour être gentil, au moins laborieuses. Et il faut reconnaître ce qui est, leur chef de file au Sénat par exemple, pas aussi bien Gérard Larcher, Bruno Retailleau, Jacques Marseille pour les centristes d'ailleurs, étaient hostiles à la constitutionnalisation. Donc, ça signifie en pratique que soit ils ne votent pas pour, soit qu'ils votent à regret, parce qu'ils savent que de toute façon ça passera. Mais leur chef de file était vraiment réticent. Alors, quelqu'un comme Bruno Retailleau, par exemple, je trouve que de son point de vue, il est parfaitement cohérent. Parce que ce sont ses convictions, on le sait depuis toujours. Bon, voilà, il a des convictions très affirmées dans ce domaine, c'est un catholique pratiquant. Bon, il est sincère. Pourquoi est-ce que Gérard Larcher a pris des distances vis-à-vis de ça? Au nom de quoi? Pourquoi est-ce que le président du Sénat d'abord s'exprimait en tant que tel? Bon, c'est forcément une espèce de mouvement d'humeur. Probablement, moi, mon interprétation, c'est que comme la majorité a eu la grossièreté d'annoncer le jour du congrès de Versailles avant le vote du Sénat, il a eu un peu un coup de sang et que du coup, il a lâché.
C'est une guerre d'égo.
Oui, je pense.
Roselyne.
Permettez-moi peut-être quelques souvenirs personnels, parce que ce combat est un des combats de ma vie et que pour moi, ce jour est un grand jour.
C'est une journée historique.
Et c'est une journée historique et j'y associe évidemment la mémoire de deux femmes que j'ai accompagnées dans leur combat. D'abord Simone Veil, puisque quand j'ai été nommée ministre de la Santé, la première chose que j'ai faite, c'est de téléphoner à Simone et de lui dire « Simone, je suis dans votre bureau à travers ces combats que nous avions menés ». Et puis Gisèle Halimi, puisque c'est à l'Observatoire de la parité que je présidais, que nous avons conçu la loi paritaire, la loi de la parité obligatoire. Donc je pense au combat de ces deux femmes extraordinaires, et pardon d'avoir évoqué ces souvenirs personnels et l'émotion qui m'habite devant ce vote.
Mais vous dites
je
quoi,
regrette c'est... pas souvent de ne plus être parlementaire, mais aujourd'hui, je regrette de ne pas être au Congrès pour avoir le bonheur, la fierté de voter cela.
Vous dites quoi à ceux qui disent « on n'avait pas besoin de faire ça, l'IVG n'est pas menacée en France ».
L'IVG n'est pas menacée en France, mais nous voyons bien que les forces de la réaction sont partout. Partout dans le monde, Trump, Bolsonaro, et dans des pays où elle, non seulement elle n'est pas menacée, elle est menacée, mais elle n'a jamais existé, ce droit n'a jamais existé. Mais nous le voyons en Europe, où beaucoup de personnes tiennent des propos dangereux, et certains même reviennent sur ce droit. Et on voit bien que les choses ne sont pas réglées. Il suffit de regarder les atermoiements, par exemple, du Rassemblement National, quand... Front National quand même, Jean-Marie Le Pen en 2002, il m'a dit qu'il faut abroger la loi Veil. En 2012, Marine Le Pen propose de renoncer au remboursement de l'avortement. Elle n'a pas voté l'extension du droit à l'avortement de 12 à 14 semaines. On voit bien que ça a flotté là-dessus. Alors, je parle pas de mes ex-camarades. Alain l'a très bien pointé, qui se retrouve vraiment dans une position souvent misérable. Enfin, je n'oublie pas que Jacques Chirac avait dit « tout ça, ce sont des histoires de bonnes femmes ». Cette citation éminemment malheureuse, mais je voudrais en profiter.
Mais est-ce que dans votre famille politique, il y a vraiment encore des hommes et des femmes?
Des anti-IVG
contre l'avortement.
Écoutez, dans mon département de Maine-et-Loire, il y a un député LR qui a voté contre la constitutionnalisation contre au moment du vote à l'Assemblée nationale.
On peut être pour l'IVG et contre l'inscription à la Constitution.
À la Constitution, mais on voit bien que derrière tout cela, c'est le même combat. Je veux quand même rendre, j'ai parlé de deux femmes, mais je voudrais quand même, parce que c'est un petit peu un oublié de cette histoire, rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing.
Oui.
Parce que c'est lui, contre son camp,
contre sa famille,
contre sa famille politique, contre son milieu. C'est lui, élu président de la République.
Sans lui, il n'y aurait pas eu l'IVG.
Sans lui, il n'y aurait pas eu la levée de la criminalisation de l'avortement. Et vraiment, alors bien sûr, ça n'enlève rien à Simone Veil, mais c'est lui qui a voulu ça. Et je trouve qu'on devrait lui rendre un hommage plus appuyé qu'on ne le fait.
Et ça n'a pas été fait d'ailleurs dans la bouche de Gabriel Attal, qui a rendu hommage à Simone Veil, mais pas via Giscard d'Estaing. Mais est-ce quand même une bonne partie de la droite s'est quand même dit cette fois-ci, on ne va pas être du mauvais côté de l'histoire, ne soyons pas ringards, c'est ce que aurait dit Éric Ciotti notamment.
Oui, moi je crois. Éric Ciotti là-dessus a toujours été plus ouvert, disons, que par exemple Bruno Retailleau ou qu'Olivier Marleix. Hein. Mais moi je crois beaucoup à la thèse selon laquelle les députés et les sénateurs ont entendu leur mère, leur femme, leur fille, leur nièce. Oui, mais
surtout leur femme.
Autour d'elle.
Ils se sont fait engueuler par leur femme.
Non, mais autour d'eux. Je pense que ça les impressionnait plus.
J'ai l'impression que Rosine Bachelot a des anecdotes.
Non, mais ça a évidemment pesé. Bon, il y a aussi le fait que c'était de toute façon un combat en retraite. Ils savaient que ça avait toutes les chances de passer. Et donc, tout ce qu'ils risquaient, c'est de conserver une image à la fois ringarde et en même temps, surtout, incompréhensible vis-à-vis de l'évolution de la société. Bon, donc, je pense que de ce point de vue, ils ont été assez malheureux aujourd'hui.
C'est-à-dire que l'Église, par exemple, n'a plus de poids. Quand l'Église dit aujourd'hui, il y a un communiqué qui dit aujourd'hui, on est en train de voter le droit de supprimer une vie humaine.
Et aujourd'hui, dans l'électorat catholique, par exemple. Et aujourd'hui doit être un jour de jeûne et de prière.
Voilà.
Bon, on ne peut pas reprocher à l'Église catholique d'être catholique.
D'accord, mais il y a un électorat catholique, ça pourrait faire réfléchir certains.
Alors, l'électorat catholique pratiquant est certainement beaucoup moins allant que les autres. En revanche, l'immense majorité des catholiques, qui sont des catholiques sociologiques, qui sont des catholiques rituels, ceux-là, ils sont comme le reste des Français, bien entendu. Mais bon, c'est la société qui a évolué. Ce qui est quand même intéressant dans cette affaire, en dehors du côté juridique, en dehors de la garantie, importante, parce que on dit tout le temps, l'IVG n'était pas menacée, mais l'IVG n'était pas menacée aujourd'hui. Personne ne peut dire que dans 10 ans ou dans 5 ans, elle n'aurait pas été menacée. On n'en savait rien, donc c'était tout à fait légitime. C'était tout à fait légitime. Bon, il n'empêche qu'à mes yeux, c'est surtout, si j'ose dire, un aboutissement. C'est la fin d'une évolution de 50 ans. Ouais. Et du point de vue de la France, comme hier, par exemple, Bardella parlait de l'effacement de la France, là, on se distingue plutôt qu'on ne s'efface.
Bien sûr.
Et ça revient à ce qui est quand même une partie, puisqu'on parle toujours de l'identité de la France, une partie de l'identité de la France, c'est d'être dans le domaine des droits de l'homme et des femmes, d'être en avance sur les autres pays.
Et puis on n'a pas toujours été.
D'abord, on a quand même été les premiers à commencer avec les Américains.
Le droit de vote accordé aux femmes, on a attendu quand même l'après-midi.
Je ne dis pas que la France a
40 ans sur la Turquie.
Vous donnez le son toujours en matière de droits des femmes.
Oui, mais là, justement,
on a
l'occasion de se racheter. Mais je voudrais revenir sur un mot important qu'a dit Gabriel Attal dans son discours quand il a parlé d'une dette morale vis-à-vis des femmes. Et j'ai été particulièrement émue par le discours de Claude Malhuret.
Ah oui.
Parce que Claude Malhuret, qui sait vraiment dire les choses, il a quitté la froideur du débat.
Il a parlé en tant que médecin.
Il parlait en tant que médecin, cette rencontre avec une jeune femme qu'on amène entre deux gendarmes, qui parce qu'il est tout jeune médecin, dans un petit hôpital rural où il avait 25 ans à l'époque, et on lui amène cette toute jeune fille entre deux gendarmes qui s'est livrée à un infanticide parce qu'elle n'a pas eu accès à l'avortement. Et j'ai trouvé qu'il y avait comme ça des centaines de milliers de femmes qui rentraient dans cet hémicycle du Congrès et qui disait ce qui s'était passé. Ce qu'il disait, pourquoi on faisait ça.
Il a raconté l'horreur aussi, parce que c'était des chiens errants qui avaient retrouvé le bébé en grattant, en grattant le sol. Il a dit aujourd'hui, non, le médecin que je suis n'oubliera jamais.
Parce que moi, et c'est à cette jeune femme que je pense. Oui. Je fais partie de la génération qui n'a pas connu le droit à l'avortement. J'ai vu des camarades de classe être obligés de se marier à 15 ans ou 16 ans et de renoncer à tous leurs rêves.
Ou d'aller voir ce que ma grand-mère appelait elle-même les tricoteuses.
Les faiseuses d'anges. Voilà. Donc, je parle aussi d'un temps que j'ai connu.
Et qui existe ailleurs, puisque ce qu'il a dit, il a dit 40% des femmes dans le monde qui connaissent encore ces
drames. Alain et Roselyne, il ne faut pas oublier, il ne faudrait pas s'abriter derrière cette instance solennelle pour oublier aujourd'hui que dans bon nombre de départements français, en raison des déserts médicaux, des problèmes de l'hôpital, l'accès à l'avortement.
Des problèmes de l'hôpital et aussi des
gynéco.
Des pressions sociales qui, notamment dans les petites villes et dans les villages, sont évidemment beaucoup plus fortes que dans les grandes villes.
Ou dans certaines cités. Non, mais
il ne s'agit pas du tout de dire on a constitutionnalisé, tout est réglé. Oui. Ça n'est pas vrai.
On n'entend pas beaucoup.
Parce que c'était le jour. Aujourd'hui, c'était un jour quand même plutôt positif, donc on n'insistait pas sur ce qui reste des échecs. Mais c'est évident qu'il y a encore aujourd'hui la question de l'accès à l'avortement, pas de l'interdiction, mais tout simplement de l'accès pratique, la possibilité de le faire. Oui, absolument.
À l'école,
absolument.
Notamment.
Et vous savez que les questions de sexualité abordées à l'école se heurtent encore à beaucoup d'hostilité.
Bien sûr.
Donc. Évidemment, c'est pour ça que je disais, c'est un aboutissement et c'est un mouvement, c'est pas une rupture, c'est un grand symbole et c'est un moment où on est ce qu'on a été aujourd'hui, ce qu'on a envie d'être ou ce qu'on prétend être. Et que c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas tous les 10 ans.
Alain a raison d'insister sur le fait que reste entière la question de l'accès effectif à un droit maintenant constitutionnalisé. En fait, on se rend compte sur le terrain que c'est pas tellement une question de désert médical, mais comme vous l'avez dit très justement, Alain, de trouver des médecins qui acceptent de faire des avortements. Parce que moi, j'ai connu la période où quand l'avortement a été libéralisé, c'était presque un acte de militantisme. J'avais mes copains de fac c'était un acte militant, faisaient une vacation d'une journée ou d'une demi-journée dans ce qu'on appelle des centres d'orthogénie, puisque c'est le nom qu'on doit donner au centre, au service où on fait des avortements, et qu'ils faisaient. Et là, maintenant, ce militantisme a disparu, et puis, comme vous le disiez très justement, Alain, il y a une pression qui s'effectue sur ces médecins, et il y a des médecins qui pourraient pratiquer en particulier l'avortement instrumental, parce que maintenant l'avortement médicamenteux qui a aussi beaucoup changé les choses, qui pourraient pratiquer des avortements instrumentaux qui hésitent à le faire.
À la fois sous la pression de leurs propres confrères quelquefois, et la pression sociale. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se font pas avorter dans le département dans lequel elles vivent.
Alors, il y a un absent de marque aujourd'hui à Versailles, c'est Emmanuel Macron. Il n'a pas le droit d'être au Congrès, au nom de la séparation des pouvoirs. Mais est-ce que pour lui, c'est quand même une victoire politique, j'ai envie de dire une victoire à gauche? Il séduit une partie de son électorat de gauche avec cette inscription.
Disons que ce qu'il y a de plus à gauche chez Emmanuel Macron, c'est ce qui est, entre guillemets, sociétal. Bon, c'est... Alors, certains diront que c'est un résidu de gauche, mais en tout cas, c'est une dimension de gauche qu'il a. Je pense qu'on verra aussi ça à propos de la fin de vie, mais on l'a vu déjà pour la PMA, enfin, un certain nombre de choses.
Économiquement de droite et socialement de gauche.
Oui, mais ça arrive. Valéry Giscard d'Estaing, c'était exactement ça. Exactement ça. Mais maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un bénéfice électoral à espérer d'une journée comme celle-ci. En revanche, d'une part, s'il ne l'avait pas fait, il y aurait eu un déficit, alors là, vraiment, et il y aurait eu beaucoup de critiques. Et d'autre part, ça alimente quand même une image un peu plus complexe politiquement.
En tout cas, Alain, il sera dans le bureau du garde des Sceaux.
Et il prononcera un discours.
Quand on va manier le sceau dans le bureau du garde des Sceaux, quand on va manier le sceau qui va sceller cette réforme constitutionnelle, il sera là.
Et il prononcera un discours.
Ah bah évidemment. Voilà.
Il ne sera pas le dernier mot à Gabriel Attal, alors.
Non, mais Gabriel Attal, aujourd'hui, franchement, c'était globalement un peu long, mais vraiment bien.